Alors aujourd'hui, je vais vous lire Savitri, livre 10, chant 3, le débat de l'amour et de la mort. Savitri répondit à la mort. Je refuse tes cadeaux. La terre ne peut pas fleurir si seul je reviens. Alors, une fois de plus, la mort a jeté son cri de colère, comme gronde un lion après sa proie échappée. Que sais-tu de la vie riche et changeante de la terre? Crois-tu que si un homme meurt, toute joie doive cesser? N'espère point être malheureuse jusqu'à la fin. Car le chagrin meurt vite dans le cœur fatigué des hommes. Bientôt, d'autres hôtes viendront remplir la chambre vide. Une peinture passagère sur un fond de vacances, tracée pour la beauté d'un moment, ainsi fut créé l'amour. Ou, si tu es un voyageur sur une piste éternelle, ces objets flux échangent dans son embrasse, comme les vagues pour un nageur sur les mers infinies. Mais Savitri répondit au dieu vague, « Rends-moi, Satyavan, mon seul seigneur. Tes pensées sont vides pour mon âme qui sent la profonde vérité éternelle dans les choses transitoires. Et la mort de répondre, retourne et tente ton âme. Bientôt apaisé, tu trouveras que d'autres hommes sur cette terre opulente ont de la beauté, force et vérité. Et quand tu auras à demi oublié l'un d'eux, s'enveloppera autour de ton cœur qui a besoin de quelque cœur humain qui réponde contre ta poitrine. Car qui, étant mortel, peut rester seul? Alors, Satyavan glissera dans le passé. Gentille mémoire écartée de toi. Par un nouvel amour et les tendres mains de tes enfants, et tu t'étonneras même que tu aies pu aimer vraiment. Telle est la vie que l'enfantement de la terre a conçue. Un flot constant qui jamais n'est le même. Mais Savitri de répondre à la puissante mort. Ô noir critique ironique des œuvres de Dieu, tu te moques de la quête vacillante du mental et du corps, vers ce que le cœur saisit dans une heure prophétique et que l'esprit immortel réalisera. Mon cœur est de ceux qui vénèrent, bien qu'abandonnés, l'image d'un Dieu que son amour adorait. J'ai brûlé comme une flamme pour voyager sur ses pas. Ne sommes-nous pas de ceux-là qui ont enduré une vaste solitude, assis seuls avec Dieu sur les montagnes? Pourquoi, ô mort, luttes-tu vraiment contre moi? Un mental délivré de toutes les pensées crépusculaires, pour qui les secrets de Dieu sont clairs. Car maintenant, enfin, je sais par-delà tout doute que les grandes étoiles brûle sans cesse de mon feu, et que la vie et la mort sont l'une et l'autre faites de ce feu. La vie était seulement mon aveugle tentative d'amour. La terre a vu ma bataille, les cieux ma victoire. Tout sera saisi et transcendé. Jetant les voiles dans le feu nuptial. L'éternel époux et l'éternelle épouse s'embrasseront. Les cieux acceptent enfin nos vols brisés. Sur notre pouls de vie qui brise les vagues du temps, nul signal lumineux d'espoir n'a rayonné en vain. Elle dit, et les membres sans limite du Dieu, comme saisis d'une secrète extase, ont frémi en silence, comme frémissent obscurément les chants nocturnes de l'océan, livrés à la lune. Puis, soulevés par un vent soudain, dans ce vague monde miroitant autour de Savitri, le crépuscule a tremblé comme un voile qui éclate. Ainsi luttaient les grands adversaires avec les paroles armées. Autour de ces deux esprits, dans le brouillard chatoyant, un demi-jour grandissait, s'est envolé sur des ailes nacrées, comme pour toucher l'aurore de quelque idéal lointain. Silhouetté, les pensées de Savitri volaient à travers la brume miroitante, mêlant ses ailes claires aux lumières et aux voiles, et toutes ses paroles comme des joyaux éblouissants. Saisie dans le rougeoiement d'un monde mystérieux, ou surpris dans un arc-en-ciel aux teintes changeantes, flottait comme des échos qui s'évanouissent dans un son lointain. Là, toutes les voix, toutes les humeurs devenaient un tissu fugace, tissé par le mental, pour faire une jolie robe arachnéenne changeante, résolue dans sa volonté silencieuse, Savitri marchait sur l'herbe vague des plaines irréelles, un voile de vision flottante devant elle, une robe de rêve traînant derrière ses pas. Mais maintenant la flamme de la force, consciente de son esprit, se retirant de cette douceur stérile, a rappelé ses pensées de leurs paroles pour siéger au-dedans. Dans la chambre profonde de la maison de méditation. Car seulement là pouvait demeurer la ferme vérité de l'âme, impérissable, telle une flamme sacrificielle. Elle flambait, inextinguible, dans le foyer central, là où brûle, par le haut Seigneur et son épouse, sentinelle du territoire et feu témoin de tout, d'où s'allument les autels des dieux. Irrésistiblement tous trois continuaient à glisser dans l'air inchangé. Mais l'ordre de ces mondes était renversé. Le mortel conduisait le Dieu et esprit obéissait. Et Savitri, derrière, était la conductrice. tristes de leur marche, et eux devant étaient les suivants de sa volonté. Leur voyage allait de l'avant parmi les voies errantes, vaguement accompagnées par les brumes miroitantes, mais plus vite maintenant tout fuyait devant eux comme troublé, pour échapper à la clarté d'âme de sa vitrée. Tel un oiseau des cieux, sur les ailes gémées du vent, porté comme un feu de couleur dans sa poitrine, emporté par des esprits vers une crypte nacrée, son âme continuait d'aller à travers cette obscurité ensorcelée. La mort marchait devant elle et Satyavan, devant le front noir de la mort, comme une étoile qui s'éteint. Au-dessus se tenait l'invisible balance de son destin. Fin du chant 3 de Sri Aurobindo. Alors là, je vais commencer par le chant 4, le demi-jour rêveur du réel terrestre. Ainsi retentit un cri de la mort plus profondément encore, comme si sous le poids de sa loi stérile, oppressée par une propre volonté obstinée, sans sens, méprisante, lasse et compatissante. Elle n'avait plus son vieux ton intolérant, mais ressemblait à la vie avec ses innombrables chemins, peinant à jamais et n'accomplissant rien, vu sa naissance et ses changements et ces énergies mortelles qui font durer autour des bornes invariables, tournant dans la vaste ronde d'une course sans but, où la route court sans cesse pour rester pareille. Dans ce long drame de la terre, comme le destin et le hasard et le temps, certains de la vanité du jeu perdu ou gagné, écrasés par le poids de son ignorance et du doute que la connaissance semble aggraver et l'âge multiplier, le mental terrestre s'enlise et désespère et semble vieux, fatigué et découragé de son travail. Cependant, est-il donc rien ou accompli en vain? Quelques grandes choses avaient été faites, quelques lumières, quelques forces délivrées de l'énorme poigne de l'inconscient. Elle a émergé de la nuit, elle voit ses aurores, tournant en cercle à jamais, bien que nulle aurore ne puisse rester, il y avait un changement dans la voie lointaine du Dieu. Sa forme redoutable avait changé, et il admettait notre effort éphémère vers l'éternité, mais jetait de vastes doutes sur ce qui aurait pu être autrement, selon nos grandioses aperçues d'un impossible jour. La grande voix montante criait à Savitri, « Puisque tu connais la sagesse qui transcende, autant le voile des formes que le mépris des formes, lève-toi, délivré par les dieux qui voient. si tu avais gardé ton mental libre de la tension cruelle de la vie, tu aurais pu être comme ceux omniscients et calmes. Mais le cœur violent et passionné l'interdit. C'est l'oiseau des tempêtes, d'une force anarchique, qui voudrait soulever le monde et en arracher l'indéchiffrable rouleau du destin. La loi est le règne de la mort et de l'inconnaissable volonté. Mais Savitri répondit au formidable Dieu. Quel est ce calme dont tu te vantes, ô loi, ô mort? Est-ce l'inerte marche au regard hébété de monstrueuses énergies enchaînées dans une inflexible ronde sans âme et les yeux de pierre avec des rêves mécaniques? Alors vain est l'espoir de l'âme, si l'immuable loi est tout. Toujours presse-toi vers le nouveau et l'inconnu. Les millénaires précipités justifient Dieu. Que seraient les âges de la terre si la grise mesure n'était jamais brisée et les gloires ne jaillissaient pas, faisant éclater leurs semences obscures, tandis que les hommes, que la lente vie des hommes bondissait en hâte sur de soudains chemins splendides, révélés par des paroles divines et des dieux humains. N'impose pas au mental et au cœur sensible la lourde fixité qui lie les choses inanimées. Le règne inconscient est bon pour les créatures animales. Elles sont satisfaites de vivre sous le joug immuable. L'homme se tourne vers une marche plus noble, un chemin maître. Je piétine ta loi avec des pieds vivants, car pour me lever dans la liberté, je suis née. Si je suis puissante, que ma force soit dévoilée, égale compagne des forces éternelles. Ou bien que mon âme frustrée s'enfonce dans le sommeil originel, indigne de Dieu. Du temps, je réclame l'éternité de ma volonté. Et de Dieu, ses moments. La mort lui répondit. Pourquoi la noble et immortelle volonté s'abaisserait-elle aux menues besognes de la terre transitoire? Sa liberté oubliée est le chemin de l'éternel? Ou bien est-ce cela le haut usage de la force et de la pensée? Lutter contre les liens de la mort et du temps? Et perdre le labeur que pourraient gagner les dieux? Et se battre et souffrir, l'angoisse et les blessures, pour saisir les joies futiles que la terre peut garder. Dans sa petite boîte au trésor de forces passagères, enfant, as-tu foulé les dieux sous tes pieds, seulement pour gagner quelques miettes de vie terrestre? Pour celui que tu aimes, annulant la grande délivrance, retardant le précoce ravissement des cieux, auquel les clémentes divinités avaient appelé son âme, tes bras sont-ils plus doux que le parvis de Dieu? Elle répondit, droite. Je piétine la route. taillée pour moi par la ferme main qui a conçu nos chemins. Je cours où commande sa douce voix terrible, et je suis conduite par les rênes de Dieu. Pourquoi a-t-il tracé le vaste plan de ces mondes prodigieux, où emplit l'infini de son souffle passionné? Ou pourquoi a-t-il bâti ma forme mortelle et semé en moi ses brillants et fougueux désirs, si ce n'est pour réaliser en moi, pour fleurir, pour aimer, sculptant son image humaine richement douée, des pensées, des largeurs et des forces dorées? Les cieux lointains peuvent attendre notre venue dans leur calme. Aisé pour Dieu était de les bâtir. La terre était sa matière difficile. La terre donnait la gloire du problème et la course et la lutte. Il y a les masques sinistres, les pouvoirs terrible. Là est la grandeur de créer les dieux. L'esprit n'est pas immortel et affranchi. Toujours délivré des attentes du temps, pourquoi est-il descendu dans l'espace des mortels? Il a donné une mission à son haut esprit dans l'homme. Et écrit un décret caché sur les sommets de la nature. Telle est la liberté, avec l'âme toujours en selle, large dans les limites de la vie, forte dans les nœuds de la matière, bâtissant une grande substance d'action avec les mondes pour faire une fine sagesse et des fibres grossières éparses, et tailler l'amour et la beauté dans la guerre et dans la nuit. Telle est la merveilleuse gageure, le jeu divin. Quelle liberté à l'âme qui ne se sent pas libre, à moins d'être dépouillée nue et qui ne peut pas embrasser les liens dont l'amant entoure le corps de sa compagne de jeu. Choisissant sa tyrannie, écrasée dans son embrasse, pour le saisir mieux dans son corps illimité, elle accepte le cercle limité de ses bras, s'incline pleine de joie sous ses mains maîtresses et rit de ses riches contraintes. Le plus lié, le plus libre. Telle est ma réponse à tes leurs, ô mort. Sri Aurobindo. Je dépose cette lecture de Savitri, livre 10, chant 3 et chant 4. Le débat de la mort et de la vie, de l'amour et de la mort, et le demi-jour rêveur du réel terrestre. Je dépose tout cela aux pieds de mère, une infinie gratitude à douce mère. Demain, on est le 17 novembre, mais mère est toujours là, toujours avec nous pour l'éternité. Merci mère, merci Sri Aurobindo. Ganga Lakshmi. There's only you, there's only love. No, I am so
so high on love, I can't hide the clouds. I'm so high on love, then I can paint the sky. I'm so high on love, I'm so high, high, high. I'm so high on love.